Bonjour Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 4 mai 1947, Paul Ramadier révoque les ministres communistes. En France, au printemps 1947, le climat politique est tendu. Des troubles éclatent au Maroc, des tirailleurs sénégalais interviennent le lundi de Pâques à Casablanca. En quelques minutes, 100 morts sont dénombrés. Le 10 avril, à Tanger, le sultan Mohamed Ben Youssef condamne la présence française et prend la tête du mouvement nationaliste. Des émeutes secouent Madagascar. Dans la nuit du 29 au 30 mars, des bandes armées de Saguet attaquent les postes militaires français, faisant une centaine de victimes. En réaction, des colons exécutent des otages malgaches. Depuis le 10 mars, les ministres des Affaires étrangères des anciennes puissances alliées, George Marshall pour les États-Unis, Vladislav Molotov pour l'Union soviétique, Ernest Bevin pour la Grande-Bretagne et Georges Bidault pour la France, sont réunis à Moscou. La situation allemande est à l'ordre du jour. Le 7 avril, Bevin affirme « Il ne me semble pas que nous soyons d'accord sur quoi que ce soit. » Molotov défend l'unité allemande. Il réclame au titre des réparations le versement de 10 milliards de dollars sous forme de prélèvements sur la production allemande courante. Il exige également de participer au contrôle de la Ruhr. Par crainte de la menace communiste, le général Marshall rejette le principe du gouvernement central de l'Allemagne établi à Berlin. Bidault approuve la position américaine sans condamner catégoriquement les prétentions soviétiques. Il craint la réindustrialisation de l'Allemagne. Il souhaite le rattachement de la Sarre à la France. Mais il essuie un refus de son homologue soviétique qui l'incite à précipiter la rupture avec Moscou. Le 21 avril, il signe avec ses partenaires américains et britanniques un accord sur la production charbonnière de la Ruhr qui prévoit une légère augmentation des exportations. La France espère recevoir chaque mois 300 000 tonnes de charbon. Le 23 avril, Pierre-Henri Tedjène, qui assure l'intérim du Quai d'Orsay, informe le gouvernement des décisions adoptées par les alliés occidentaux. Maurice Thorez, vice-président du Conseil et secrétaire général du Parti communiste, s'indigne. La France a renoncé à ses revendications sur les réparations pour se mettre à la traîne des Anglais et des Américains. Pourtant, le responsable communiste a approuvé les instructions données à Bidault avant son départ pour Moscou. La discussion s'enflamme. Finalement, Thorez se rallie à l'avis de la majorité. En moins d'une semaine, c'est la deuxième fois que les communistes menacent de rompre la solidarité ministérielle. Le 16 avril, l'affaire de Madagascar a déjà provoqué un sérieux conflit. Le président du Conseil, Paul Ramadier, souhaite clarifier la situation. Bidault rentre à Paris le 29 avril. Il déclare « Tout accord avec la Russie est impossible. Il n'y a plus d'alliance et d'union des trois grands, plus de possibilité d'entente avec les communistes. C'est une ère nouvelle qui commence. Il faut en tirer toutes les conséquences. Il considère l'épreuve de force comme inévitable. Des mesures discrètes mais efficaces sont prises pour éviter un coup de force communiste. L'armée est placée en état d'alerte. Les palais nationaux font l'objet d'une protection renforcée. » Le 2 mai, à 14h, l'Assemblée nationale se réunit. La veille au soir, les communistes ont à nouveau manifesté leur défiance en Conseil des ministres. Charles Lucy, président du groupe parlementaire socialiste, interpelle le gouvernement sur le problème des prix et des salaires. Au nom du Parti communiste, Jacques Duclos se démarque de la politique gouvernementale. Ramadier pose la question de confiance. Il interpelle les députés. C'est le sort de la République qui est en jeu. À vous de vous prononcer. Le vote est fixé au 4 mai. À 10 heures, les débats s'ouvrent au Palais Bourbon. Duclos déplore « Le Parti communiste est en droit de penser que si l'on n'avait pas fait obstacle à la présidence communiste du gouvernement, les événements auraient pu évoluer différemment. » Ramadier reçoit le soutien des députés socialistes et républicains populaires. Il remporte la première manche. À 21h, rue Saint-Florentin, dans son appartement officiel de ministre d'État, Thorez s'entretient avec une délégation de militants. Un coup de téléphone interrompt la discussion. Un conseil de cabinet est convoqué sur le champ. Un quart d'heure plus tard à Matignon, Ramadier interroge une nouvelle fois les représentants des trois grands partis sur la question des salaires. Robert Schuman et Marcel Edmond Negelen parlent au nom du MRP et de la SFIO. Les communistes restent silencieux. Maintenant, reprend Ramadier, je voudrais l'avis des ministres communistes. Thorez dit simplement, nous soutiendrons les revendications des travailleurs. Ramadier donne le coup fatal au tripartisme. Je constate que nos collègues communistes ne sont pas d'accord avec la politique du gouvernement telle qu'elle a été approuvée par l'Assemblée nationale. Je voudrais savoir quelles conséquences ils entendent tirer de cette constatation et si, dans ces conditions, ils jugent leur présence au gouvernement possible. Thorez réplique « Je n'ai jamais démissionné de ma vie ». Ramadier ouvre un dossier et sort le texte de la Constitution. Il donne lecture de l'article 40. Le président du Conseil des ministres peut déléguer ses pouvoirs à un ministre et il enchaîne « En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution, je retire la délégation de pouvoir que j'avais accordée à nos camarades communistes et je les remplacerai. » Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama. Avant de retrouver la chronique littéraire, un jour trois livres qui sera consacré aujourd'hui à des bandes dessinées ou romans graphiques selon le cas. Ce sont les Beatles qui nous accompagnent en chanson durant cette émission. Nous écoutons pour commencer un titre de 1968, Hey Jude.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. A fool who plays it cool by making his world a little colder. Na 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 na. Hey Jude, don't let me down. You have found her. Remember to let her into your heart. Then you can So let it out and let it in. Hey Jude, begin. You're waiting for someone to perform with. And don't you know that it's just you? Hey Jude, you'll do the movement you need is on your song and make it better. Remember to let her under your skin. Then you begin to make it better.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Il est venu le temps de la chronique littéraire. Un jour, trois livres. Aujourd'hui, ce sont deux bandes dessinées que je vous propose. L'une consacrée au sport, l'autre à l'histoire sociale et radiophonique de notre pays. Commençons par le combat du siècle de Luca Ferrara et Loulou Dedola. C'est paru aux éditions Futuropolis. Cette bande dessinée nous plonge dans le monde de la boxe. Il y a 50 ans, Smokin' Joe Frazier affrontait Mohamed Ali au Madison Square Garden de New York. C'est le combat du siècle. Dans cet album, Luca Ferrara et Loulou Debola restituent le parcours de Joe Frazier, né le 12 janvier 1944 à Beaufort, en Caroline du Sud. Le premier État américain à avoir fait sécession à l'annonce de l'abolition de l'esclavage. Enfant, il travaille avec son père dans les plantations de coton. Devenu boxeur amateur, il s'installe à Philadelphie, où il trouve un emploi dans une boucherie industrielle. En 1964, à Tokyo, il remporte le titre olympique face au boxeur américain, au boxeur allemand, excusez-moi, Hans Huber, malgré une blessure à la main gauche. Joe Frazier effectue son premier combat professionnel le 11 novembre 1965. Contrairement à son rival Cassius Clay, il refuse d'adhérer à la Nation of Islam dirigée par Elijah Muhammad. Joe Frazier manifeste son patriotisme. Cassius Clay refuse de combattre au Vietnam, ce qui entraîne le retrait de sa licence professionnelle. Il se convertit à l'islam, devenant Mohamed Ali, et milite contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Il se veut le défenseur du peuple et présente volonté Joe Frazier comme un allié de la population blanche, autrement dit un oncle Tom, un noir soumis aux blancs. À New York, le 16 février 1970, Joe Frazier bat Jimmy Harris. Il est champion du monde des poids lourds. Cependant, il veut affronter Mohamed Ali. Il intervient auprès de Richard Nixon pour favoriser la restitution de la licence de son adversaire. Le combat a finalement lieu le 8 mars 1971. La tension est extrême. Au terme d'un combat épique, Joe Frazier l'emporte au point, c'est l'apothéose. Joe Frazier perd son titre mondial le 22 janvier 1973 à Kingston, en Jamaïque, face au redoutable George Foreman. Le 28 janvier 1974, il retrouve Mohamed Ali au Madison Square Garden pour la revanche. Les deux boxeurs ont perdu leur superbe. Le combat est serré, Mohamed Ali gagne au point. Joe Frazier arrête sa carrière en 1981. Il devient entraîneur et décède à Philadelphie le 7 novembre 2011. Le combat du siècle de Luca Ferrara et Loulou Debola est publié aux éditions Futuropolis. Les éditions Futuropolis nous proposent également une autre bande dessinée tout à fait passionnante intitulée « Lorraine, cœur d'acier, histoire d'une radio pirate libre et populaire, 1979-1981 », c'est signé Vincent Bailly et Tristan Thill. En décembre 1978, le plan d'Avignon de restructuration de la sidérurgie française prévoit la suppression de 22 000 emplois. Les hauts fourneaux et les aciéries de la région de Longwy, dans le nord de la Meurthe-et-Moselle, à la frontière belgo-luxembourgeoise, sont directement menacés. Pour les ouvriers lorrains, l'avenir est sombre. La lutte s'organise. Le 17 mars 1979, Marcel Triat, journaliste à l'Humanité, présente la première émission de Radio Lorraine Cœur d'Acier. Créée à l'initiative de la CGT, cette radio libre devient le fer de lance de la résistance des sidérurgistes. Radio pirate, elle est d'emblée ouverte à tous. C'est un lieu de débat et de libre expression qui consacre en particulier l'émancipation féminine. Durant près de 2 ans, elle est la voix de l'espoir du PIO. Elle invente une nouvelle forme de radio consacrée par la loi de juillet 1982 qui met un terme au monopole d'État. Lorraine, cœur d'acier, histoire d'une radio pirate libre et populaire, c'est signé Vincent Bailly et Tristan Thill, et c'est publié aux éditions Futuropolis. Nous terminons cette émission en chanson avec toujours les Beatles. Nous écoutons un titre de 1963, Love Me Do, et je remercie Lucas qui a réalisé cette émission. Je vous retrouverai avec grand plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles aventures historiques.
Love me.